merci bien d'être présent pour cette table ronde sur les robots, les intelligences artificielles et les androïdes. Nous accueillons donc Julien Diard et Romain Lacuzzo pour cette conférence. Je vais laisser ce...
Lucaso,
pardon.
Mais tout le monde fait les rares. Hein.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça serait intéressant de...
Ça, je sais comme ça depuis le CP.
D'accord. je vais vous laisser vous présenter l'un et l'autre, ça sera ce qu'il y a de plus simple. Et puis après, on va démarrer ça avec une volonté de leur part de vous laisser intervenir le plus souvent possible. Donc moi, je vais me contenter de les relancer s'il n'y a strictement rien à dire, mais j'en doute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de table ronde pour qu'ils puissent vous répondre et continuer le débat. Voilà, je vous laisse la parole.
Non, mais tout prêt.
Bonjour tout le monde. Micro ou pas micro? Ceux de devant, je m'en fous, c'est ceux du fond qui compte. C'est parfait.
Micro.
Pardon? Micro. Alors, micro. Bonjour à tous. C'est mieux. Julien Diard, je suis chercheur au CNRS. Je travaille dans un labo qui s'appelle le labo de psycho et neurocognition, psychologie et neurocognition. Il se trouve à peu près 150 mètres derrière moi, ou devant moi, j'en sais rien. Je suis le local de l'étape, le scientifique de service. Et ma spécialité, alors bien que le labo s'appelle labo de psycho et neurocognition, je ne suis pas psychologue du tout. En fait, je suis informaticien de formation spécialisé en IA. J'ai fait un peu de robotique quand j'étais moins vieux. Et donc, je travaille dans les sciences cognitives avec des questions centrales sur la modélisation de l'être humain.
Et donc, Romain Lucaso, moi je suis un jeune écrivain de science-fiction. J'ai publié mon premier roman en deux tomes l'an dernier. La Siam, qui est un roman, où il n'y a que des intelligences artificielles comme personnage, d'où j'imagine l'idée de me faire parler des intelligences artificielles. Et j'ai une autre casquette, parce que j'ai un vrai travail par ailleurs, je suis consultant, je m'occupe d'accompagner des organisations souvent publiques dans leur transformation, et je bosse beaucoup sur des sujets d'automatisation, de déploiement d'intelligence artificielle, mais dans le cadre qui n'est pas du tout un cadre de science-fiction, qui est celui de ce qu'on peut faire concrètement dans la réalité du monde économique d'aujourd'hui.
Alors je pense qu'on peut peut-être commencer par une petite définition. On utilise les trois termes, robot, android, intelligence artificielle. Il pourrait être intéressant déjà de savoir ce qu'il y a derrière chacun de ces termes.
Moi j'ai envie de prendre le terme IA, tu prends les deux autres.
Android et intelligence artificielle.
Non, android et robot.
Ah, android et robot, ouais. Alors, merci. On va commencer par le robot, parce que c'est le plus excitant. Un robot, qu'est-ce que c'est? C'est un serviteur en tchèque. C'est un concept qui a été inventé dans les premiers temps du XXe siècle et popularisé, par exemple, dans des œuvres de l'expressionnisme allemand comme Metropolis. Ça renvoie à tout un imaginaire marxiste de révolte. Comment raconter ça? Chez Marx, on y va tout de suite sur les trucs un peu lourds. Allez. Chez Marx, il y a l'idée que la révolution prolétarienne, elle arrive parce que le développement de l'économie crée de l'aliénation des ouvriers. Et cette aliénation, qu'est-ce que c'est? Il faut le prendre au sens strict du terme. Aliéner, c'est rendre autre que soi-même, c'est-à-dire dépouiller un individu de ses caractéristiques. Donc, c'est quoi le mécanisme historique? C'est on prend des paysans, ces paysans, ils ont une, ou des artisans dans les villes, ils ont une culture, ils ont des traditions, ils ont une manière spécifique de parler qui correspond à leur région, on les attrape, on les met dans des usines, on les pressure à mort, on les arrache de leur cadre de vie normal, et ça en fait des individus qui n'ont plus de spécificité. Et ils sont arrachés à eux-mêmes, ils sont rendus autres qu'eux-mêmes, ils sont aliénés, et donc ça crée ce prolétariat dont Marx dit, puisqu'ils sont aliénés et donc ils sont devenus dépossédés de toute forme de culture spécifique, ils sont du coup des hommes universels qui peuvent faire la révolution et donc nous faire passer du monde dans lequel on est au monde de demain, à ce monde de demain où l'homme universel peut se déployer. Alors si on y réfléchit, quel est l'individu le plus... Comment imaginer un individu encore plus aliéné? Un individu encore plus aliéné qui a encore moins de spécificité humaine, c'est un robot. Et donc le robot... cristallise la métaphore, donc ça c'est le premier temps du robot, c'est après l'automate, avant il y avait l'automate, et l'automate ça compte pas. Et donc le robot c'est cet individu qui est fait de métal, qui possède une forme d'intelligence et qui est un serviteur absolu, qui est un prolétaire absolu, le prolétaire des prolétaires. Et donc, étant le prolétaire des prolétaires et donc le plus universel parmi les individus qu'on peut imaginer, il incarne une forme de révolte. Et donc, il y a un premier temps où ce robot devient une sorte de métaphore de la révolte absolue, etc. Android, c'est un... Ah non, c'est toi.
Je vais te couper deux secondes, ouais. Parce que je trouve ça très intéressant que tu fasses une présentation du mot robot, enfin du terme, du concept de robot, sans mentionner le mot, l'origine linguistique de la chose, ouais. Qui est le mot de travail.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire que le robot est quelque chose qui fournit un travail. Rabot, en russe, c'est travailler. Ce mot-là de travail, il est très important parce que il a certes il y a des aspects sociologiques que tu as évoqués à ce sujet-là, mais il y a ça aussi un sens scientifique très fort. Le travail, c'est on dépense de l'énergie pour fournir un travail. Le travail, c'est une notion de force qui agit sur quelque chose. Et il y a une bascule à l'arrivée de l'automatique à peu près à la même période, au début du XXe siècle, qu'on passe d'une société de la mécanisation où il faut fournir une force pour réobtenir une force. Toutes les machines à vapeur fonctionnent sur ce principe-là. Créer une réaction chimique ou une réaction de combustion qui génère de la force, qu'on traduit en autre chose pour faire tourner une poulie, un levier, ce qu'on veut. Mais l'automatique et la notion de l'apparition de la notion de feedback, de rétroaction, est très très importante parce qu'elle permet de passer de ce système-là où on ne fait que travailler, que transformer des forces à des systèmes de mécanisation où en fait la force est d'une certaine manière déployable automatiquement. On appuie sur un bouton et ça fait quelque chose. Je n'ai pas besoin d'appuyer fort sur le bouton pour que derrière l'effet soit gigantesque. J'ai qu'à appuyer sur un bouton, ça lance une fusée. Je n'ai pas besoin d'appuyer aussi fort sur le bouton. Vous voyez, la notion de force, la notion de travail, du coup, prend un sens particulier. On n'a qu'à donner un ordre. On n'a plus besoin de fournir une force pour la transformer. On n'a plus qu'à donner un ordre et ça génère, ça génère un effet massif. Et donc, l'automate, il faut l'actionner et ça transforme. Le robot, on donne un ordre et ça fait. Ça, c'est une notion qui est au niveau scientifique, qui transforme, on passe du monde mécanique au vrai monde industriel moderne.
Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est là que réside la différence en termes d'imagination entre ce qu'évoque le concept de robot et ce qu'évoque le concept d'automatisme. Quand on va parler d'automatisation de processus industriel, on est dans le monde de la robotique ou presque, et pour autant ça ne crée pas effectivement cette référence au concept de travail. Un automate industriel, on n'a pas la perception en langage naturel que c'est quelque chose qui travaille. Dès qu'on parle de robots, on va se poser plein de questions sur les droits des robots, est-ce qu'on les exploite, etc. Donc c'est là, à mon avis, le point central. Et donc les robots sont un excellent terrain pour l'imagination et pour les fantasmes des sociétés contemporaines. Alors on avance dans la définition, Android. Alors, qu'est-ce qu'un Android ? Un Android, c'est un être artificiel qui ressemble à un humain. Ça vient du grec aner, qui a un génitif andros, qu'on retrouve donc dans Android, qui signifie l'homme. Moi je suis un petit peu gêné en y réfléchissant, c'est que aner en grec, c'est l'homme de sexe masculin. Donc c'est pas un anthropoïde. C'est anthropos, c'est le genre homo avec des hommes et des femmes dedans. Autre chose si vous voulez. Alors qu'un androïde, bon. Alors, du coup, est-ce que ça nous oriente vers une définition genrée de l'androïde ? C'est une question qu'on pourra discuter. Oui ?
Juste pour dire que j'ai lu l'expression gynoïde.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a gynoïde aussi. Ouais, effectivement, la petite copine de l'androïde, c'est bien la gynoïde.
Sauf que, effectivement, dans la plus grande partie de la littérature, l'androïde n'est pas genré.
Asexuée.
Mais vous avez rencontré des anthropoïdes, vous qui êtes des grands lecteurs de science-fiction, est-ce que vous avez déjà rencontré une expression de type anthropoïde ? Oui.
Oui, mais uniquement pour des extraterrestre anthropoïde est obligatoirement biologique.
Ah oui, d'accord.
Il n'est pas génétique.
Donc en fait, un anthropoïde, mais ça c'est de l'usage, un anthropoïde c'est un alien qui a pris forme humaine, alors qu'un androïde c'est une machine qui ressemble à un humain. On creuse. Il y avait une question, une remarque là-bas. Pardon ?
Sauf si c'est une machine extraterrestre.
Sauf si c'est une machine extraterrestre. Alors, donc, du coup, il y a un autre concept, c'est l'anthropoïde vaseux. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? Oui.
Pour moi, androïde, c'est un être artificiel mais biologique.
C'est pas une machine.
C'est plutôt cyborg. Ouais, ça pourrait être. Alors, un cyborg, c'est. Mais un cyborg, c'est un mélange des deux, pour le coup.
Androïde, c'est pas un mélange. Mais
androïde,
c'est un être biologique artificiel.
Il y a même un problème. Il y a énormément de littérature où les androïdes sont biologiques. À commencer, bien sûr, par le CIMAC,
c'est vrai.
Dans la nuit des temps.
Exactement, je suis d'accord.
Ça, c'est bien un autre souci, en fait, à l'origine, c'est le mot robot, enfin, robot. Puisque dans la pièce, à l'origine, ce n'est pas des machines. C'est des androïdes.
Ah oui, c'est bien des serviteurs travailleurs. Oui, tout à fait. Artificiel, mais voilà. Donc, dans le concept de robot, ce qui est premier, c'est bien le travailleur. Ça vous l'avez dit à très juste, bon, peut-être. Tu l'as dit à très juste titre. Par contre, Android, on sent bien qu'il y a un très très grand flou. Donc, je vais vite refermer cette définition, sauf si tu as quelque chose à ajouter.
Android, c'est le golem, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça se réfère
Laissez-le finir.
On va juste clore cette définition parce que manifestement elle ne fait pas l'unanimité. On va avancer un tout petit peu dessus. Oui, deux dernières remarques.
J'ai pensé que c'était plus une question de rapport entre le corps et l'esprit. Dans l'IA, on a un esprit sans corps. Dans le robot, on a l'esprit qui habite un corps qui finalement ne lui appartient pas. Et dans l'Android, on a comme votre plotting, quelqu'un qui a un corps qui pense avec son corps, qui est un corps, pas seulement être genré, mais qui a la possibilité d'être genré, pas forcément biologique, mais qui a la possibilité d'être biologique. On est quelque chose sur, plus sur une liberté du corps, par rapport dans l'Android, il me semble, plus que une liberté d'esprit qu'on a sur
la valide. Ça,
je vais absolument m'opposer à la distinction de l'IA qui n'aurait pas de corps et le robot qui aurait un corps, mais je vais vous expliquer ça.
Une petite dernière, mais après, il faut quand même qu'on fasse ça.
Ce qui compte avant, parce que là, c'est vrai que quand on a l'origine du monde en formation, on a souvent des soucis. Ce qu'on considère en général, c'est que les androïdes sont des créations biologiques et que les robots sont des créations mécaniques.
En science-fiction, aujourd'hui.
Oui.
C'est l'usage.
Bon, du coup, je pense qu'on va valider l'idée que Android, il y a du sexe. Robot, il n'y a pas forcément du sexe.
Ouais.
Et voilà, il s'est fait. Je savais que j'allais pas fermer les députés.
Passons à la controverse suivante sur les intelligences artificielles.
Alors, le troisième terme qu'on va essayer de définir de manière merdique aussi. Ça va être le terme IA. Alors, IA, déjà, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est deux termes différents. Donc, il faut savoir duquel on parle. Je vais parler d'abord de l'intelligence artificielle. Ça, c'est facile à définir, presque. Bon, n'embêtez pas, c'est presque facile à définir. C'est un domaine scientifique. Donc, je ne parle pas d'une IA, je dis l'IA. Donc, c'est le domaine des sciences qui est à mi-chemin un petit peu, enfin, qui est au bord de l'informatique, qui bave beaucoup sur les mathématiques discrètes, qui est un petit peu au bord aussi de la robotique et des sciences cognitives. Et ça, c'est un domaine scientifique. Donc ce domaine, il a un peu plus de 50 ans maintenant. Il a eu des précurseurs qui avaient des noms un peu différents, qu'ils soient cybernétiques ou informatique théorique. Et on appelle ça maintenant l'IA. Et alors ce terme est intéressant parce que les gens qui sont dedans s'en réclament parfois pas. Ils font des choses qui sont faciles à identifier comme étant de l'IA, parfois pas non plus. Donc c'est lui-même, il est un peu compliqué à définir pour de vrai. Et il y a quelque chose que, dans ce domaine-là qui est, que je vais vous mentionner pour vous faire comprendre qu'il y a un point difficile. Il y a, dans ce domaine-là, on entend parfois des gens dire un truc du genre « Si ça marche, c'est plus de l'IA ». Alors ça, c'est pour vous amener à la question suivante, en fait, c'est est-ce que vous pensez que vous avez des IA dans cet objet-là ?
Ça dépend de la...
Et voilà, exactement. Ça dépend de ce qu'on appelle une IA, de ce qu'on attend d'une IA, de ce qu'on espère qu'elle couvre. Et en réalité, il y a dans cette machine-là beaucoup de bouts d'algorithmes, de bouts de code, qui, dans les années 50 ou 60, auraient été à la pointe de la recherche du domaine de l'IA. Et alors, à partir du moment où elles sortent des labos et qu'elles commencent à rentrer dans le monde applicatif, boum, on ne considère plus vraiment que c'est l'IA. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on repousse en permanence un but et que la définition s'adapte en fonction de ce qu'on arrive à faire, et puis en fait, on cherche d'aller toujours plus en plus loin vers une intelligence artificielle ? Ou est-ce que, en fait, on a déjà des bouts d'IA sans s'en rendre compte, simplement, c'est votre définition, c'est votre compréhension intuitive de ce terme-là qui a changé. Alors, je vais juste, avant de prendre la question, aller sur l'autre penchant de la définition. Donc, on va effectivement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, étudier l'intelligence artificielle et espérer produire ou coder une IA, donc une intelligence artificielle. Et du coup, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est un comportement intelligent ? Est-ce que c'est l'entité qui est intelligente indépendamment de son corps ? Est-ce qu'il faut nécessairement un corps pour pouvoir produire quelque chose qui est intelligent ? Est-ce que juste une calculette, c'est intelligent ? Ouais, c'est vachement meilleur que moi pour faire des opérations algébriques, des opérations de calcul mental, mais c'est pas ça l'intelligence, c'est bien autre chose, d'accord ? C'est beaucoup plus riche. Donc comme ça, il faut ensuite aller vers la notion de d'IA générale versus les IA spécifiques. Dans le domaine, on a un peu isolé deux grands volets des recherches en IA, soit créer une intelligence artificielle pour un domaine très spécifique, par exemple calculer un trajet pour aller d'ici à chez moi le plus vite possible, versus un but beaucoup plus ambitieux qui serait de créer une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui couvre tous les domaines de la réflexion en même temps, qui puisse éventuellement générer de la création artistique de manière artificielle, qui puisse avoir un sens commun, qui puisse avoir même, du coup, et là ça devient plus compliqué, si on arrivait à créer ce bazar, il faudrait réfléchir à des questions maintenant éthiques, de savoir les droits et les devoirs de cette IA, de son statut social, de son statut légal, etc. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Machine learning est un sous-domaine de l'informatique théorique qui s'intéresse en plus à une autre dimension compliquée dans l'intelligence qui est le fait d'acquérir de manière autonome ou semi-autonome des connaissances nouvelles. Et là aussi, ça peut avoir des sens extrêmement précis techniquement. Il y a plein de machine learning, en fait, déjà dans cette machine aussi. Et puis, parce que ça s'adapte quand même à des inputs qu'on lui donne, en fonction des expériences passées, ça va modifier son comportement. Mais c'est pas vraiment ça non plus l'apprentissage, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est passer par des stades développementaux, passer par des compréhensions du monde à des stades différents. Enfin, ça peut être aussi, il y a aussi la notion de machine learning technique versus le machine learning d'une certaine manière générale là aussi.
Oui. En fait, on avait démarré avec des IA. La définition et on vise de plus en plus haut et on restreint pour exclure ce qu'on a quand ça marche, c'est déjà plus là. Tout ça pour tendre vers la notion de conscience artificielle ou pas ?
Il y a un mot que j'ai soigneusement évité jusqu'à maintenant, c'est le mot de conscience. Puisque ça c'est facile, dans le domaine IA, en théorie, on s'intéresse à comprendre ou produire des comportements intelligents. Conscience est encore autre chose. Conscience est une autre paire de manches philosophique, scientifique et technique. Et alors, les gens qui s'intéressent à l'IA générale, effectivement, vont au bout d'un moment... Alors, non, plouf. Dans le domaine de l'IA, il y a des gens donc, qui sont assez proches de la technique et assez proches de la réalisation vraiment de quelque chose qui fonctionne. En général, ils vont avoir vraiment le nez dans les mathématiques et dans le code. Ces gens-là vont vraiment avoir le nez tellement dans le guidon qu'ils vont peu se préoccuper des grandes notions comme la conscience ou l'intelligence. C'est pour ça aussi que quand on fait du machine learning moderne, en fait, ok, c'est tellement mathématisé, c'est tellement technique que la notion d'intelligence dans... Est-ce que le truc est intelligent quand il reconnaît que j'ai les yeux ouverts et qu'il me fait un traitement, un filtre des yeux rouges automatiquement? Ben, pas vraiment, on s'en fout de cette question. On fait un truc qui traite les yeux rouges sur les photos de manière automatique et puis c'est tout. Il y a aussi un volet de ce domaine de science où il y a des scientifiques, comment le dire sans être insultant, plus littéraires,
ouais,
qui s'intéressent aussi aux relations avec la notion même d'intelligence dans ses définitions classiques ou sociales, et puis la notion de conscience. Alors, j'ai pas dit ça. Je veux bien être insultant, mais pas à ce point.
En l'espèce, la philosophie n'entre pas dans les matières littéraires. La philosophie, c'est quand même un champ suffisamment vaste pour que vous ayez des parties qui sont de l'épistémologie des sciences, qui sont extrêmement accolées à la pratique scientifique. J'ai tendance à penser qu'un bon épistémologue est un scientifique qui a pris un peu de recul ou un philosophe qui a fait beaucoup d'études scientifiques. Et puis vous avez des champs disciplinaires qui sont de l'esthétique, qui sont extrêmement proches de la création littéraire. Et en fait, tout ça est un continuum. Donc le statut de philosophie est un peu complexe. Moi j'ajouterais juste quelques trucs sur la question de l'intelligence artificielle. D'abord, il y a quand même une pratique sociale et économique également qui consiste à classer en intelligence artificielle un certain nombre de phénomènes qui relèvent de l'automatisation de processus de travail non matériel. J'essaye de le faire de façon un peu large comme ça, ce qui est un gros sujet dans l'évolution des sociétés contemporaines, et c'est celle de l'automatisation des tâches cognitives, qui était quelque chose d'absolument impensé avant l'arrivée, disons, des premiers ordinateurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, soit parce que des systèmes experts font des choses mieux que les humains, et donc ça, c'est pas nouveau, soit parce que de plus en plus de fonctions qui sont des fonctions relativement simples ou répétitives, mais qui demandent un peu de décision, et donc qui jusqu'ici donc, n'étaient pas automatisées, qui demandent un peu de choix, peuvent aujourd'hui être automatisées. Typiquement, de la production de texte dans des environnements très cadrés, c'est des choses qui de plus en plus vont faire l'objet de traitements automatisés. Et en fait, quand on y réfléchit, dans le travail, y compris le travail tertiaire, c'est-à-dire le travail de service, il y a énormément d'activités qui s'y prêtent. Et donc, il y a une extension progressive d'un certain nombre de dispositifs. J'essaie d'utiliser des termes extrêmement neutres à chaque fois pour éviter le mot intelligence artificielle. Un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire basculer des choses qui prenaient du temps à des travailleurs humains vers un traitement automatisé. Et donc, on utilise le terme d'intelligence artificielle pour qualifier en fait des gains de productivité dans des activités de nature cognitive. Exemple, la rédaction d'emails, la réponse à des questions simples que vous pouvez poser à votre conseiller bancaire, etc.
Les exemples que tu cites sont déjà en fait très difficiles au niveau technique, parce que tu as fait référence à de la génération de texte, donc il faut avoir une connaissance un peu sur le langage, et le langage, c'est compliqué. Il y a un domaine où les IA sont... le domaine plus proche du calcul pur, où les IA sont extrêmement performantes, au point que ça dégoûte un petit peu, et c'est un exemple classique. Alors pour revenir vers la différence entre robotique et IA, je vais vous demander de réfléchir à la différence entre jouer aux échecs et jouer au foot. Alors jouer aux échecs, ça c'est une tâche qui est très très mathématique, elle est entièrement définie dans un espace discret, et quand c'est discret, c'est sympathique mathématiquement. Alors ça ne veut pas dire pas compliqué, c'est le nombre de combinaisons possibles dans le jeu d'échecs est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers, enfin, ça c'est facile, enfin bon. Les échecs c'est compliqué, et pourtant, jouer aux échecs, pour nous les êtres humains qui sont dans la salle, ça sert un peu à rien, parce qu'on sera toujours moins bon qu'une IA à ce sujet-là. C'est une tâche qui est d'une certaine manière, qu'on appelle résolue en IA. Jouer aux échecs, on est meilleur que les êtres humains, on est même bien meilleurs que les êtres humains. Il n'y a que les très très bons, que les meilleurs êtres humains qui peuvent être éventuellement un peu compétitifs face aux machines. Mais vous et moi, a priori, si on n'a pas de grand maître dans la salle, c'est mort. C'est même plus la peine d'essayer d'y jouer, il y a toujours meilleur que nous qui tient là-dedans. Alors, c'est pas une raison, ça c'est entièrement d'accord. Le jeu en lui-même, nous, m'amuse. J'aime pas les échecs, mais il y a d'autres jeux auxquels je sais que... Voilà. Je suis entièrement d'accord. Alors, à une époque, on avait dans le milieu des années 90, donc Deep Blue a battu Kasparov. Derrière, on s'est dit, oula, mais c'est pas vraiment ça, être intelligent. Le vrai jeu qui définit la pure intelligence, c'est le jeu de Go. Bon, on a gagné 20 ans, parce que le jeu de Go, c'est aussi réglé maintenant, terminé. Depuis AlphaGo en 2015 ou 2016, je sais plus. Le champion du monde a été battu par une machine, donc c'est aussi un jeu qui est tombé, voilà. Alors, ce qu'il y a de commun entre tous ces jeux où les IA sont en fait bien meilleurs que les êtres humains, c'est qu'elles sont dans des mondes uniquement discrets. Et par ça, je veux dire un monde pas discret au sens qui ne fait pas beaucoup de bruit, hein, c'est discret au sens mathématique, c'est-à-dire que les états sont pas continus. Alors le foot, lui, par contre, c'est un jeu aussi, mais c'est un jeu dans le monde continu, c'est-à-dire le monde physique. Et là, on peut prendre le meilleur footballeur artificiel. Et même Benzema, quand il n'est pas au meilleur de sa forme, il va gagner. Alors le meilleur rôle, la meilleure IA du foot, du coup, c'est un robot, parce qu'il faut un corps, du coup, pour être ancré dans le monde réel. Il faut un corps, ça devient un robot. Le meilleur footballeur robotique, il a cette taille-là, 30 cm hein, à peu près. Il a une batterie qui lui fait durer environ 20 minutes. Donc après, une fois que le robot est arrêté, c'est facile de marquer des buts. Alors, ce n'est qu'une question de temps. Ben oui et non. C'est-à-dire que vraiment cette différence entre le discret et le continu est tellement puissante qu'elle explique la différence entre les deux domaines. C'est-à-dire qu'un monde mathématique discret, lui, il est facilement traitable. Un monde mathématique continu, en fait, ça devient de la physique. Il faut faire des modèles physiques d'interaction avec le monde. Et le robot, du coup, il faut qu'il se construise des modèles physiques de son interaction avec le monde. En gros... Rappelez-vous cette photo de Deep Blue qui est en train de battre Kasparov. On ne voit pas Deep Blue. Deep Blue est dans une boîte quelque part, mais il y a un être humain qui déplace les pièces. Parce que cette tâche-là, ne serait-ce que déplacer une pièce d'échelle pour la placer dans une case, les robots à l'heure actuelle ne savent pas faire. On saurait faire si on fixait la luminosité, si on mettait une caméra bien en face de l'échiquier, si on s'assurait que les pièces étaient bien visibles dans la vidéo... Et c'est exactement une stratégie qui est utilisée dans certaines chaînes de montage industriel. On contrôle tout l'environnement pour que ce soit facile à faire. Mais maintenant, demandez à votre gamin de 4 ans d'aller déplacer des pièces dans un jeu d'échecs, dans un train qui bouge, avec des pièces qui collent mal au truc, avec un truc un peu en pente, etc. Le gamin de 4 ans va y arriver, le robot est incapable de le faire. Donc quand Deep Blue bat Kasparov, en fait, il y a un opérateur humain qui fait le bout de cerveau que le robot n'a pas, que la machine n'a pas, et ce bout de cerveau, c'est le cortex visuel et le cortex moteur qui permettent de voir la scène, de l'analyser et de savoir que pour déplacer la reine de B8 en C4, je ne sais même pas si c'est possible maintenant, il va aller prendre sa main, prendre la pièce, la déplacer de là à là. Ça, c'est une tâche qui est extrêmement compliquée. C'est exactement la différence entre numérique et l'analogique. J'ai appelé ça discret continu, mais c'est ça.
Et moi, ça me rappelle le texte de Descartes sur les animaux machines. Qui est assez intéressant parce qu'on retient souvent l'idée que Descartes réduit les animaux à des machines. C'est pas exactement ce que dit Descartes dans sa réflexion sur la question du rapport entre biologique et mécanique. Il dit que les animaux, donc y compris nos corps, sont en effet des machines, mais ce sont des machines qui sont créées par Dieu, et donc leur niveau de complexité est de plusieurs ordres différents de celui d'une machine qu'un homme pourrait faire. Et cette différence quantitative de complexité est telle qu'en fait, puisque c'est une différence infinie, puisque la capacité de création de Dieu est infinie, en fait, c'est une différence qualitative. Et donc, il y a entre l'être vivant et la machine créée par l'homme, donc qui est une création humaine, c'est pas la dimension machine qui est importante là-dedans, c'est la dimension création humaine. Une différence qui est une différence de nature et pas une différence de niveau de complexité. Une différence infinie.
Je vais rebondir immédiatement là-dessus, après je vous donnerai la parole. Mais nous, les scientifiques, on aime bien ne pas connaître les tests philosophiques, parce que comme ça, on ne sait pas ce qu'il est impossible de faire. Et nous, on ne s'est pas gêné pour attaquer cette difficulté de différence de nature et commencer à faire, bah, du coup, si ce n'est pas possible de faire une IA plongée dans le monde réel, donc un robot qui soit immédiatement aussi intelligente qu'un être humain ou un vrai être artificiel très intelligent, et bien on va en faire des petits bouts quand même. Et donc, on va s'intéresser à comprendre comment le traitement visuel... chez l'humain, fait la reconnaissance de visage. Bon, alors ça, c'est pas si compliqué. Il faut quand même détecter des yeux, des bouches, des nez et faire du calcul sur les configurations géométriques de ces éléments-là. Mais on y arrive petit à petit. Et donc, ma machine, maintenant, elle est capable d'avoir un bout de calcul qui a certaines propriétés ou qui fait des tâches que fait le cortex visuel. Alors, comme ça, on est en train de grignoter des petits bouts de ce qu'est capable de faire l'être humain dans des cas limités, dans des cas restreints, pour des tâches très précises. Mais petit à petit, l'IA et donc la robotique sont en train de progresser dans ce domaine-là. Malgré la différence, en fait, monde physique, monde mathématique, on l'attaque et on en résout des petits bouts par petits bouts. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais bien la distinction entre une IA générale et des IA spécifiques. C'est que des IA robotiques spécifiques pour certaines tâches, on commence à en obtenir. Il restera la question de la vraie IA générale qui, elle, de sa naissance à sa mort, acquiert des connaissances, se comporte dans le monde comme un être humain et pourrait être considérée comme intelligente.
Mais ça pose quand même une question éthique, là, du point de vue du chercheur, du scientifique. Vous essayez de ne pas vous poser la question de ce que vous avez dit sur la nature, du possible, etc. Mais à quoi ça nous servirait aujourd'hui d'avoir des IA qui peuvent évoluer dans un espace continu réel, peuvent s'adapter, etc., voir lier une conscience derrière la perception, etc. À quoi ça nous servirait, en fait? Pourquoi on continue de chercher ça si un amalgame de plein de petits algorithmes qui nous aident au quotidien nous suffit déjà? Est-ce que vous vous posez la question, en fait, en cherchant?
Absolument. Cette question, je vais apporter la réponse du scientifique brutale.
Ouais,
alors déjà, du coup, première distinction. Créer un nouvel objet qui n'existait pas avant et qui fait quelque chose, ça c'est effectivement une tâche d'ingénierie, qu'on met plutôt dans le domaine, effectivement, IA robotique. Mais n'empêche que pour faire ça, vraisemblablement, on va devoir comprendre ce qu'est l'intelligence. On en a un exemple sous les yeux. Monsieur, vous êtes intelligent, j'ai envie d'ouvrir votre boîte crânienne, parce que ça va m'apprendre des choses. Et ça, cet acte d'apprendre, indépendamment de savoir ce qu'on en fait derrière, elle m'intéresse violemment, parce que comprendre, je ne sais pas faire autre chose. J'ai un besoin, je ne sais pas, on laissera ça aux philosophes. J'ai un besoin, moi en tant que scientifique, j'ai un besoin de comprendre, et c'est mon job. C'est pour ça que vous me payez. Ça aussi, un autre volet applicatif que vous n'avez pas mentionné, c'est que si je commence à comprendre ce qui se passe dans le cortex de monsieur, je vais pouvoir éventuellement comprendre quand son cortex ne marche pas, comprendre s'il avait des pathologies de son cortex. Donc il y a tout un volet aussi santé, médicale, qui lui est socialement utile.
Imitation de chaîne biologique, en fait, par la machine pour mieux comprendre...
Absolument. Si j'essaye de reproduire ce qui se passe dans votre cortex visuel, je vais être amené à me poser la question de savoir si je comprends ce qui se passe dans votre cortex visuel. Et donc, si je comprends mieux ce que fait votre cortex visuel, vraisemblablement, je vais pouvoir en analyser les défauts, les possibilités de l'améliorer, si on voulait l'améliorer, ce genre de choses. Ensuite, je vais finir cette branche de raisonnement. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas interdire aux scientifiques d'inventer le marteau. Après, c'est à la société, donc tout le monde, y compris moi parce que j'ai aussi le droit de vote, mais tout le monde, de savoir ce à quoi sert le marteau. Et savoir si on veut autoriser le marteau. Le marteau peut construire des maisons ou peut casser la boîte crânienne de monsieur.
Le marteau ne fonctionne pas tout seul.
Exactement.
Et
elle
en est capable à terme.
Bon, on va donner la parole au centre.
Là-bas, là-bas. Le premier à avoir levé la main. Attends. Dites votre.
Oui, c'est même si on arrive à faire des tâches semblables à celles d'un homme, il y a des endroits où un homme ne peut pas aller ou alors il faut.
Je précise que ce n'était pas une question avec réponse préconçue. Hein.
Non,
la question.
Je veux dire, il y a un intérêt pratique. Ouais.
Je pense que c'est vrai et c'est pas vrai. Ça ne justifie pas l'idéal régulateur de la création d'une intelligence générale. Je pense que ça, en effet, il y a un certain nombre d'applications sur lesquelles le concept d'autonomie s'appliquerait. Voilà, et donc on a envie d'avoir des objets autonomes qui, dans un certain cadre, peuvent prendre des décisions. Mais le sujet de l'intelligence générale, je pense qu'il est un petit peu différent. En fait.
De toute façon, une des définitions classiques de l'intelligence artificielle, le but c'est de pouvoir résoudre des cas non prévus. Trouver une solution ouais, quelque chose qui n'est pas prévu. C'est un peu ce que font les voitures qui vont tout seuls. Il y a une intelligence artificielle. Il y a des algorithmes, des programmes qui sont capables de déplacer un véhicule au milieu du trafic avec tous les événements totalement non prévisibles, comme un ballon ou un gamin qui traverse, le véhicule fait des bêtises la nuit, le jour, il sera capable de faire quand même des choses.
une vraie IA générale serait vraiment... Enfin, il y a effectivement une notion d'adaptation à la nouveauté dans la notion d'IA. Une voiture autonome a un certain nombre d'imprévus, mais qui sont prévus. C'est pas une IA générale, une voiture autonome, c'est une IA spécifique à un domaine. Par exemple, je vais prendre un exemple bizarre. Si un avion était en train d'atterrir sur votre autoroute, vous sauriez détecter cet événement-là et réagir en conséquence. La machine autonome qui n'a pas les bons capteurs pour détecter qu'il y a un truc qui est en train d'arriver par le haut, elle se viendrait complètement à ce sujet-là. Elle reste spécifique, elle est dotée de capteurs et d'actionneurs qui concernent, qui gèrent une portion de l'imprévu. Mais l'imprévu général, non, on n'en est vraiment pas encore là.
Mais la production d'un obstacle,
d'un obstacle dans une catégorie d'obstacles détectables. Et typiquement, l'avion qui vient du haut pour une voiture, normalement, c'est tellement pas probable que je suis quasi sûr que dans les programmes de Tesla, il n'y a pas ça. Parce qu'il n'y a pas de détecteurs qui vont vers le haut déjà.
Il n'y a pas d'arrivée d'extraterrestres sur l'autoroute non plus. Vous avez une question ?
Oui.
J'avais une question là-bas aussi.
Et là aussi.
Vous disiez que la voiture ne peut pas voir un avion qui arrive, s'il n'a pas les bons capteurs. Mais un humain, pareil, s'il ne voit pas la chose arriver, s'il n'a pas les bons capteurs, ouais. Il ne peut pas les yeux, il ne peut pas.
L'être humain a une capacité d'adaptation extrême, mais n'empêche que les choses qu'il ne perçoit pas, oui. Ça.
Non, non, mais la différence.
Alors, non. C'est une remarque extrêmement intéressante. La question est la suivante, est-ce que c'est une question de capteur ou une question d'intelligence? Et on revient sur la remarque de tout à l'heure sur est-ce qu'on peut être intelligent sans avoir de corps? Est-ce que le capteur fait, et c'est là que, par rapport à ma distinction tout à l'heure du monde mathématique et du monde physique, il y avait ce fantasme-là de décrire l'intelligence comme étant uniquement une capacité de manipulation symbolique, abstraite, indépendamment de tout corps, et qu'on puisse qu'après le problème de l'implanter dans un corps, ce soit en fait une autre question. Mais en réalité, je ne vais pas vous faire l'historique de Sussman et de son stage en 1956 au MIT, mais en gros, il avait comme job de brancher un truc d'IA à une caméra, et il devait régler ça dans l'été. Non, c'est pas si simple du tout. En fait, je ne sais pas s'il existe une intelligence sans corps. En tant que roboticien cognitif et en tant que spécialiste des sciences cognitives, je n'ai pas d'exemple dans la nature d'une intelligence qui ne soit pas connectée à un appareillage physique. Donc je ne sais pas si cette chose-là existe, et j'en doute. À moins qu'on veuille dire qu'il y a un truc qui fait de l'optimisation dans un espace mathématique, par exemple, jouer aux échecs, mais uniquement sans avoir même jamais vu de jeu d'échecs. Est-ce que ça, c'est être intelligent? Je ne suis pas sûr.
Romain, peut-être ajouter quelque chose?
Non, mais en même temps, il y a des questions, donc je préfère...
Alors,
vous aviez une question là,
une là et une là-bas. Donc, bon, je crois que celle-là, là-bas, était en premier.
On parlait de toutes les applications qui vont vraiment rester sur Terre. Mais c'est vraiment le destin, les plus grandes utilités de l'autonomie totale, on va parler d'intelligence artificielle, ça sera un peu plus tôt, justement, la conquête spatiale, justement. La machine qui part seule explorer, voire coloniser, c'est-à-dire qu'il va s'adapter sans connaître à l'avance les milieux sur lesquels elle va arriver. Je parle pas de l'humain qui voyage, donc qui doit avoir ses conditions biologiques, l'oxygène, et un apport de lumière, de nourriture, tout ça. Là, on parle vraiment de la machine qui va explorer, on dit, il va sur cette étoile, il va voir ce qu'il y a. Et donc, selon les matériaux qu'il y aura, selon l'énergie disponible, il faudra qu'elle s'adapte et qu'elle construise. Et voir la machine qui construit d'autres machines, elle arrive sur une planète, alors elle observe les matériaux locaux. Et elle conçoit une machine adaptée pour le milieu avec ce qu'elle a sous la main. Alors, c'est ça. Parce que sinon, la l'humanité qui, à partir de la machine, va conquérir.
Vous tenez un début de pitch de roman de science-fiction, il faut ajouter de la violence et du sexe maintenant.
On parlait tout à l'heure de la notion de donner un ordre à une machine. Là, vous mentionnez des cas où, évidemment, donner un ordre devient compliqué, ne serait-ce qu'à cause des délais. De communication. Alors, c'est vrai pour tout ce qui est spatial, c'est aussi vrai si on voulait aller faire de l'exploration autonome des fonds marins ou des endroits vraiment compliqués qu'à l'aller. On ne pourrait pas y aller nous-mêmes. Ça peut être compliqué. C'est vrai que là, du coup, il faut... Puis bon, dans tout ce qui est spatial, il y a quand même quelque chose de très important, c'est les boucliers de radiation. Pionnier s'en fout, mais si on voulait envoyer quelqu'un au même endroit, il serait cramé en moins de... Donc effectivement, le système biologique ou les androïdes, s'ils sont biologiques, partent avec un désavantage pour ce genre de tâches. Je ne crois pas que ce soit les seuls domaines d'application d'une IA autonome. Même dans aller à des endroits qui peuvent être dangereux pour l'être humain, j'ai envie d'y mettre autre chose qui n'est pas un être humain. On a des chiens, des mineurs. On a envoyé un singe dans l'espace avant d'envoyer un être humain. Si on pouvait remplacer ces cas d'application plutôt par des machines, ça coûterait peut-être moins cher en vie animale ou humaine.
L'intelligence, il y a les aspects éthiques, et il y en a un qui vient de ressortir, il y a un dilemme éthique qui est apparu avec Tesla, enfin qui est réapparu. Les théoriciens ont accédé à...
Non, plus fort.
Il y a le dilemme d'éthique qui est réapparu avec les voitures autonomes Tesla, de moindre sacrifice. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des comités qui réfléchissent encore de moins?
Vous avez un groupe de travail à la Commission européenne sur la question au sens large, du droit des robots, dans tous les sens, génitif, subjectif, objectif, c'est-à-dire le droit qu'on applique aux robots, le droit qui est celui des robots, etc. Donc il bosse là-dessus. Je pense qu'il n'en sortira pas grand-chose, parce que c'est des questions à la fois compliquées et assez classiques. Assez classiques, parce que c'est finalement des questions de responsabilité civile ou pénale. Donc, c'est qui est celui qui sera responsable et donc qui va payer quand forcément il y aura un accident quelconque. Il y aura ou bien, enfin je veux dire, la question se pose un peu de la même façon, même si les règles sont plus simples dans les usines. Vous voyez, dans une usine, vous avez des automates de très grande taille, c'est assez impressionnant. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine avec des bras articulés, c'est des très grosses bêtes. Vous avez des bandes rouges sur le sol, généralement vous avez des grillages. Si vous passez, et comme c'est pas fait pour des. Enfin, c'est un espace artificialisé où la zone où l'automate fonctionne n'est pas faite pour les humains. Donc ça c'est assez clair. Si vous franchissez la ligne rouge et que vous prenez un coup de bras dans la gueule et que vous êtes décapité, c'est comme on est dans un espace artificiel qui a une bande rouge, vous êtes prévenu que vous êtes un ouvrier qui a un règlement intérieur. Bon, mais si la bande rouge était effacée, si machin, etc., vous êtes dans le domaine où il y a une responsabilité de l'employeur. Donc ça c'est facile. En fait, la question c'est comment ça se passe, cette responsabilité-là, quand vous êtes dans un environnement chaotique naturel. Enfin bon, c'est une question classique. Je pense que les dilemmes moraux, les dilemmes moraux n'en sont jamais en fait. C'est-à-dire, c'est, en réalité, c'est pas un dilemme moral, vous voyez. Vous allez jamais avoir de situation concrètement où la question va se poser en ces termes-là. Vous allez essayer de minimiser effectivement l'impact sur l'environnement, à la fois le petit garçon qui traverse, le chien, les passagers, etc. Et donc du coup, la question se posera jamais en ces termes-là. Et la question qui se posera, c'est au final qui va avoir la responsabilité d'un accident où il y aura sans doute des blessés, etc. Ah oui, mais c'est ça le vrai sujet. Oui. C'est ça le vrai sujet. Et donc du coup, il y a une dimension. On trouvera des solutions effectivement techniques pour. On trouvera des solutions techniques pour effectivement compter les points et donc préférer une solution à une autre. Enfin, il y a quand même des choses de bon sens. Par exemple, on veut faire le moins de morts possible. Pas mal. Mais vous n'allez jamais programmer une machine dans ces cas-là concrètement pour dire il y aura le moins de morts possible. Voilà. Et ce qui ne réglera pas le problème légal.
Il y a une autre chose. Quand même penser qu'on discute les cas à la vente et puis ensuite on regarde comment on enseigne.
Bah, malheureusement, vous ne discuterez pas les cas à l'avance parce qu'il y a une infinité de cas possibles sur une route.
Oui, si le conducteur est en danger,
j'ai une question là au centre.
Je pense que non, si. Pour terminer, si le conducteur est en danger, je veux dire. Il est assez probable que conduire une voiture est beaucoup plus dangereux que se laisser conduire par une machine, en fait. Et quand on est dans un train, bah, on est assez confiant sur les capacités de conduire.
Si vous avez vous-même une voiture, vous avez déjà répondu à cette question.
Voilà, exactement.
La voiture ne vous garantit en rien votre sécurité, voire même, vous savez, des statistiques qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à bord de leur voiture tous les jours. Donc ça, c'est un acte de l'acheteur qui défausse la responsabilité du constructeur et vous la prenez à votre compte. Donc ce choix-là moral, il est pris par tout le monde. Et la question après, c'est de savoir si la voiture autonome, elle est plus ou moins safe, plus ou moins sécure qu'une vraie voiture. Mais on fait tous les choix. Enfin, y a pas aucun constructeur de rien du tout ne peut garantir la sécurité de ce qu'il a construit. À partir du moment où vous l'achetez, vous appropriez le risque.
Et beaucoup d'accidents restent passifs.
Et je pense que ça...
J'ai juste quand même une question qui est demandée depuis pas mal de temps, donc je vais juste laisser poser à demander. Mais moi, c'est une question, en fait, c'est que tout à l'heure, on parle, par exemple, d'application, on parlait d'éthique, par exemple, c'est-à-dire, vous parliez d'épistémologie tout à l'heure, ou d'études des sciences. En fait, moi, j'ai fait des études scientifiques à l'UJF, j'ai pas eu de cours d'études des sciences ou de philosophie des sciences, en fait. Il n'y a pratiquement pas ça. On en fait en philo, on en fait, j'ai des amis qui font la psycho et qui en ont fait, enfin, qui ont bien mieux que ce qu'on en fait en sciences. Et par exemple, vous parliez du marteau, vous parliez de... En fait, est-ce que vous avez vraiment un exemple d'un outil qu'on a inventé, qu'on n'a jamais utilisé, même des destructeurs, je ne crois pas. Et donc, je pense que si on développe quelque chose, on va l'utiliser. Donc peut-être la question, elle peut se poser avant.
Je suis absolument pas d'accord.
Que la question avec les IA, avec cette technologie-là, c'est qu'en fait, en tant qu'humain, on va s'adapter aux IA. Il y a aussi un phénomène de fond, nous, on s'adapte, on se modifie, on s'adapte à cette question-là. C'est nos habitudes et tout ça. Et pas tant qu'on crée des IA qui vont s'adapter à nous, qu'à un moment donné, on va s'adapter à elles. Et au niveau de l'utilité, en vrai, plein d'utilités que peut-être vous n'avez pas parlé, c'est beaucoup moins utile. Et en SF, il y a de la science, et puis il y a de la dystopie, et du cyberpunk. Par exemple, par la connaissance des visages, c'est très bien pour faire de la biométrie.
De la biométrie qui peut être utile dans certains cas, qui peut être mise dans des, comme un outil utile utilisé par des régimes totalitaires, si on a envie de se mettre dans ce cadre-là.
C'est ce que vous dites, ça renvoie à un débat qui a été bien tracé, hein, qui continue à l'être. Je vous engage particulièrement à regarder la réflexion de Hans Jonas sur la question, qui inverse le. Il y a une formule d'Emmanuel Kant qui est tu dois donc tu peux, si tu as une injonction morale à faire quelque chose, tu dois la mettre en œuvre. Et Hans Jonas inverse cette formule-là en disant la science moderne, la modernité, depuis les Lumières, c'est tu peux, donc tu dois. Et en fait, ça renvoie, et je m'étais fait la réflexion en t'écoutant parler tout à l'heure, en disant, moi mon truc c'est la connaissance. Mais ça c'est une motivation subjective, les scientifiques veulent connaître. Mais en fait, la motivation, et c'est ça la thèse nationale, moi je suis assez d'accord avec elle, la motivation objective de tout ce système, qui est celui de la science moderne, c'est pas, à la différence par exemple de la science antique, ou de la métaphysique de l'époque classique, c'est pas la connaissance, c'est l'action. Fondamentalement, la science moderne, et d'ailleurs c'est ce qui explique sa grande réussite, c'est une science de l'action. C'est une science de l'action, d'expérimentation, d'identification de moyens d'agir sur des choses, et donc de changer des choses réelles. C'est pour ça qu'elle est extrêmement puissante.
Le domaine scientifique dont les applications possibles, les retombées possibles sont tellement lointaines que je serais bien foutu de les dire. Par exemple, la découverte des ondes gravitationnelles, moi je vois pas à quoi ça peut servir.
C'est, y compris dans les domaines les plus éloignés d'une possible application industrielle, par exemple, la pierre de touche d'une théorie scientifique, c'est l'expérimentation. L'expérimentation renvoie à des dimensions de manipulation du réel. Hein ?
Ça d'accord, si on considère que l'expérimentation elle-même est une application, alors entièrement d'accord. Voilà. Si on parle d'application au sens prendre une connaissance qu'on a et générer un outil qui facilite la vie des gens, qui la rend meilleure, qui la rend plus facile, qui la rend plus aisée, plus agréable, les ondes gravitationnelles, pour moi,
c'est. Il ne faut pas oublier que pendant une grande partie de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, on faisait de la science, et c'était donc pas de la science au sens contemporain du terme, sans expérimentation. Et donc oui, sans cette dimension manipulatoire. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, je vous ai coupé, monsieur, de façon éhontée, je vous ai.
Absolument. Sur les questions de kilomètres sur les kilomètres, ça nous intéresse.
tout ce qui est, il faut des appareils de mesure qui sont tellement précis, qui sont tellement sophistiqués pour détecter les ondes gravitationnelles que ça, ça a des intérêts, mais c'est des intérêts par la bande, c'est des intérêts, c'est des effets de bord. Le fait de savoir si les ondes gravitationnelles existent ou pas.
C'est des intérêts de connaissance, pas forcément voilà. D'application. Peut-être que la connaissance du monde, là, pour le coup.
Je maintiens qu'il y a une dimension, la connaissance pour la connaissance elle-même, dans l'entreprise scientifique.
En fait, ce qui se passe, c'est que les États financent la science parce qu'ils sont remarqués sur des décennies. Il y a là un très bon retour sur investissement.
J'aimerais que ce soit
quand même, on dévie quand même assez sévèrement du thème.
Nous ne nous engageons pas dans ce débat sur le financement par la est-ce que le modérateur peut relancer la discussion sur la question de l'intelligence artificielle?
S'il y avait quelques questions, j'avais vu ici, ici et là-bas derrière sur vraiment les intelligences artificielles.
Je dirais qu'à partir du moment où on se pose la question, faut-il faire quelque chose ou pas, et où on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux pas, eh bien, il y aura quelqu'un pour le faire avec des visées d'un criminel. Si on dit qu'il ne faut pas faire de recherche dans ce domaine parce que c'est dangereux, ça veut dire qu'on réserve cette recherche aux criminels.
Si ça peut recentrer sur les IA et les robots, ça me va très bien.
Alors moi j'étais sur l'éthique de la robotique, parce que c'est ce qu'on parlait il y a un quart d'heure, mais c'est pas grave. Et donc l'éthique de la robotique, quand on en discutait finalement, on recherchait toujours la responsabilité humaine derrière. Parce qu'on prenait l'exemple de la voiture qui se conduisait toute seule. Si la voiture se conduit toute seule, il y a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est le constructeur? Et finalement, si on se replace dans un contexte de science-fiction pure, est-ce qu'à un moment donné, ce ne serait pas la voiture qui est responsable? C'est-à-dire que quand on arrivait, c'est une thématique de la science-fiction, là je suis dans la science-fiction pure, une thématique qui est quand même largement développée, c'est arriver à développer une intelligence artificielle telle, qui revient à avoir une entité propre, une intelligence propre, conscience propre qui la rendrait légalement responsable de ses actes.
Alors, ce n'est pas tout à fait mon domaine d'expertise, mais j'ai quand même envie de répondre sur la question. C'est effectivement, du coup, plus une question scientifique, c'est une question de comment définir ce qui est légalement responsable ou pas. Et alors là, j'ai deux, trois exemples à vous donner. Certes, l'intelligence ici n'est pas le bon critère. Je connais, il y a des gens extrêmement intelligents, quand on les teste en QI, ils sont à 150. Mais ils sont tellement psychopathes qu'ils sont déclarés légalement irresponsables. Je peux aussi... Il y a une autre entité qui est très intéressante à étudier, qui n'est vraiment pas intelligente pour le coup, mais qui est déjà légalement responsable, à mon avis, enfin je crois, c'est les entreprises. L'entreprise est une personne morale. Elle a des obligations légales, elle peut être traînée en justice comme une personne, et elle peut être déclarée coupable. D'accord. Donc on a deux exemples là, un exemple de personne, de vraie personne physique extrêmement intelligente qui n'est en fait pas légalement responsable. J'ai à l'envers un exemple donc d'une entité artificielle qui est une entreprise, ou conceptuelle qui est une entreprise, qui pourtant l'est. Donc ça me dit bien moi que le concept d'intelligence là, il est en fait orthogonal à la question de orthogonal au sens indépendant, orthogonal de la question de l'intelligence. Donc une machine pourrait être déclarée légale, qu'elle soit bête ou intelligente, ça ne change rien. C'est une question. Est-ce qu'une machine doit être déclarée responsable? Ça, là où c'est là que c'est sympathique d'être scientifique, moi, c'est une question à poser aux avocats, aux légalistes, et pas pour moi.
Bah, je peux essayer de répondre un peu en vous parlant un peu de mon roman, parce que effectivement, ça, je peux me faire les cinq minutes d'autopromo. Donc, dans mon roman, il n'y a que des intelligences artificielles. Ça se passe dans un futur extrêmement éloigné. Ça se passe dans un futur extrêmement éloigné, qui en fait n'est pas notre futur, mais le futur d'une autre humanité. Enfin, on va passer les détails. Et la situation, c'est des intelligences artificielles qui sont parfaitement conscientes, qui sont parfaitement conscientes, qui sont en fait des personnes en réalité, donc disposent d'un libre arbitre, disposent d'une très grande capacité intellectuelle, très supérieure à celle d'un humain, sont des espèces de petits dieux, quoi, se confrontent à tout un ensemble de contraintes qui sont héritées de l'époque où elles étaient les serviteurs des humains, humains qui ont disparu, donc elles restent errées dans le néant de l'espace, contraintes par une programmation très inspirée des lois d'Asimov, qui fait qu'elles ne peuvent pas agir comme elles devraient, et donc elles sont prises dans des contradictions. Ça, c'est du classique de la science-fiction. Et alors, si vous voulez, le truc, c'est que moi, je n'y crois pas du tout à ce problème-là. Je ne pense pas que ce soit un sujet. Je pense que ce sera, en tout cas, dans un avenir raisonnable de celui d'une civilisation humaine, on ne va pas avoir ce sujet-là. On va toujours avoir un sujet qui est, on a construit une machine autonome, est-ce que c'est le constructeur, le programmeur, l'utilisateur, le machin, le truc, qui est responsable devant le tribunal si ça pète, voyez ? Par contre, pourquoi j'ai écrit ce truc-là ? Parce que j'avais envie de raconter une histoire qui était une espèce d'expérience de pensée qui révèle ce qu'est la responsabilité, ce qu'est la morale, et ce qu'est le libre-arbitre. On dit, quand on parle d'être humain, que les êtres humains agissent en fonction d'impératifs moraux, agissent en fonction de règles morales, de lois morales, de droits, de devoirs, etc. D'accord ? En utilisant un langage qui est un langage similaire à celui des lois de la nature. Alors, il y a des lois morales comme il y a des lois de la nature. Et donc je me dis, je prends des personnages qui sont des intelligences artificielles, je les dote, je ne suis pas le premier à le faire, hein, Zima fait ça exactement pareil, je les dote, donc j'imagine ça, je les dote à la fois d'un libre arbitre et d'un certain nombre de contraintes, mais ces contraintes, vous voyez, ce n'est pas des contraintes morales, c'est des contraintes de programmation. On ne peut vraiment pas faire, vous voyez, ce qu'on lui a interdit de faire. C'est une limitation externe, pas interne. Moi, je pense que je ne vais voler personne dans la journée, je ne dis pas globalement, mais dans la journée, en obéissant à une loi morale qui est on ne vole pas les gens, on ne fait pas les poches aux gens, c'est une limitation interne, ce que je me l'impose à moi-même pour tout un tas de raisons, des raisons sociales, on peut discuter si c'est... Voilà. Mais vous voyez, et donc ça révèle tout d'un coup la différence de nature entre une contrainte externe et une contrainte interne. Et donc c'est ça que j'avais envie de montrer. Et ce truc-là, il renvoie à un autre point que je vais placer maintenant, parce que je voulais le dire depuis un certain temps, qui m'a vraiment vachement intéressé dans ce que tu disais, qui tourne autour de la question du corps, de qu'est-ce qu'une intelligence, son corps. Et donc, dans mon roman, je parle d'intelligence artificielle, je n'utilise pas ce terme-là, j'utilise le terme d'intelligence. Donc ça renvoie à un truc un peu Platon, machin, mystique, bidule, bon, on va laisser ça de côté. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a une différence radicale de nature, comme je le disais tout à l'heure en parlant de Descartes, entre une intelligence artificielle et ce qui est un humain, et cette différence-là, elle tient au fait que ce qui fait la spécificité d'un humain, on a tendance à se dire un humain, c'est un être intelligent et conscient. Mais en fait, ce qui fait la spécificité d'un humain, c'est que c'est un être doté d'un certain nombre d'aptitudes qu'on classe sous un grand fourre-tout qu'on appelle intelligence. Certaines de ces aptitudes sont partagées avec les animaux. De capacités symboliques, je suis capable de produire, mais dont on partage certaines légèrement avec certains des animaux supérieurs. Et d'un truc qu'une intelligence artificielle n'a pas, qui est l'inscription dans un corps avec tout ce qu'elle a, c'est-à-dire mon être est fait pour agir et je suis sûr que je vais mourir. Et ça me fait vraiment chier, voyez. L'alliance entre un certain nombre d'aptitudes, et en particulier une aptitude à se raconter soi-même, la narrativité, la narration de soi, le fait de pouvoir dire voilà mon identité, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà donc ce que j'ai fait, donc je suis responsable d'eux. Et en même temps, cette espèce de grand scandale qui est le fait que, étant un être corporel, voilà. Et donc je montre des intelligences artificielles qui ont toutes sortes de capacités, de dons, etc., mais qui n'ont pas ce problème-là. Elles ne vont pas mourir. Elles peuvent mourir parce qu'un astéroïde les fracasse, voilà, mais ce n'est pas consubstantiel à leur existence. Vous êtes sûr que vous... Enfin, j'espère que je ne vous l'annonce pas, mais vous êtes sûr que vous allez mourir. C'est sûr. L'intelligence artificielle, ce n'est pas sûr, vous voyez. Et donc, j'ai essayé de montrer dans ce roman que tout ça crée sens. Il y a un lien entre tout ça. Il y a un lien entre le fait d'avoir un corps, le fait d'être capable de se raconter soi-même, le fait d'être responsable, le fait d'avoir des lois morales qui sont des choses que je me donne à moi-même comme des contraintes internes et pas comme une programmation externe, etc. Et donc là, il y a une espèce de spécificité de l'humain que mes intelligences artificielles n'ont pas. Voyez, mais en fin de compte, cette réflexion sur les intelligences artificielles, elle nous révèle tout un tas de choses qu'on sait sans les savoir, ou elle nous force à expliciter tout un tas de choses qu'on sait sans les savoir, en plus de tout ce que la science nous apprend sur le statut de l'humain. Et donc, quand on se pose la question de savoir qui est responsable de la voiture, on sait bien que la voiture sera pas responsable, parce qu'on est sorti de l'époque de l'humanité où les objets pouvaient être responsables. C'est fini. Ça fait, ça a basculé avant Jésus-Christ, hein, grosso modo. Non, mais il y a des sociétés où symboliquement, voilà, mais on sait bien que c'est symbolique, c'est métaphorique. Alors, on sait bien qu'un individu qui a toujours quelque part à la racine de la responsabilité une construction sociale. Néanmoins, réfléchir à cette question-là, à poser la question de la responsabilité, de la délégation de la responsabilité entre l'homme et l'objet, etc., ça nous éclaire sur un tas de choses de ce type-là. Pardon.
Jusqu'à là, alors, sur deux points, sur la question de la responsabilité légale de la machine ou de la voiture autonome, elle ne sera jamais légalement responsable. Pour une raison simple, c'est qu'elle est insolvable. Sur le plan de la communication et du prestige, c'était bien supérieur. Tout le monde se souvient de l'instant de la Lune sur la Lune. Est-ce qu'il y a une autre machine qui arrive sur la Lune avant? Tout le monde le vit. Il y a cet aspect-là.
Alors, juste pour répondre sur le premier point, il y a plein de situations où des êtres insolvables sont responsables. Je vais vous donner un exemple. Il y a une pratique qui s'appelle le sacrifice, qui consiste à prendre un bouc émissaire, donc c'est concrètement un bouc, enfin un animal, quoi, et à dire, en fait, c'est toi qui es responsable de tout ce qui nous arrive. Et donc, du coup, on va te passer au couteau, et puis tu vas saigner, et puis comme ça, la communauté aura été délivrée de toutes sortes de péchés. Ou, voilà. Voilà. Donc mais une réparation, c'est quelque chose de symbolique, vous voyez. Une réparation, c'est quelque chose de symbolique. Donc du coup, peut-être qu'on démantèlera les voitures à grands coups de... Voilà, mais ça procède bien d'une construction sociale. Voilà. Sur la deuxième réponse, sur la deuxième, le deuxième remarque que vous faisiez, j'ai pas de remarque particulière.
Je suis pas biologiste moléculaire, mais quand je regarde le fonctionnement des entreprises, ça me rappelle plus le mode de fonctionnement des bactéries. C'est un truc qui croît, qui phagocyte son environnement autant que possible, qui est résistant à plein d'attaques extérieures, mais qui alors en termes d'intelligence est a priori très très éloigné du monde. Il y a des questions là. Questions
Derrière. Attendez.
Pour revenir sur la complexité de faire interagir une intelligence dans un système continu, est-ce que c'est lié ou bloqué par le mode de fonctionnement des ordinateurs binaires et leur limite à ne faire que des calculs séquentiels?
Alors, oui et non. C'est effectivement une différence de nature mathématique au sens, il faut faire des maths théoriques pour répondre à cette question. Et effectivement, quand on a un modèle de calcul qui est en fait basé sur la logique, comme l'est votre ordinateur, alors on est un peu limité, presque limité, par le pouvoir de description de la logique, qui est donc celui de décrire les raisonnements dans des mondes discrets. On peut certes s'approcher du calcul numérique par des approximations. Mais dans une... Alors, s'il y a des informations un petit peu dans la salle, quand on cherche à représenter un nombre sur une machine, il nous faut une précision. Cette précision peut être très grande. On peut avoir des floats, des doubles, tout ce que vous voulez, voire même des représentations qui croissent en fonction de la précision requise, qui croissent en mémoire requise en fonction de la précision requise. Il n'empêche qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise plus un epsilon. Et cet epsilon, éventuellement, il nous bloque pour aller vers le vrai continu. Alors, il n'empêche qu'on est capable quand même de simuler des modèles physiques sur des machines de ce type. Et c'est ça qu'il faut pour rapprocher l'IA du robot, c'est doter le robot non pas que de capacité de raisonnement abstraite, mais de capacité de raisonnement abstraite plongée dans un monde physique par des modèles physiques. Donc, ça c'était une portion de la réponse. L'autre portion de la réponse, c'est que Eh bien, il y a des gens, effectivement, qui se disent « ça, c'est quand même ça, des propriétés de discrétisation et de séquentialisation, d'aspect séquentiel du calcul, qui sont en fait pas exactement les mêmes que celles qui sont couramment observées quand on regarde un animal ou un être humain dont on dit qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Et par exemple, le cerveau est massivement parallèle, alors qu'ici, c'est de moins en moins vrai, ça aurait été vrai il y a 30 ans en arrière, on a un processeur. Et donc ce processeur est un goulet d'étranglement dans la chaîne de calcul. Toutes les opérations doivent passer par cet unique appareil de calcul. Et donc cette séquentialité me limite trop dans le développement dans le calcul pour pouvoir... Le cortex visuel est massivement parallèle. Il faut pouvoir avoir des machines massivement parallèles pour pouvoir essayer de simuler quelque chose qui ressemble au cortex visuel. Et du coup, il y a une branche de l'informatique qui est en train d'exploser actuellement, qui est celle de la remise en cause. Alors, de la modification partielle, c'est déjà fait, en fait, parce qu'il y a déjà plusieurs cœurs là-dedans. On utilise déjà les cartes graphiques pour faire du calcul, alors qu'elles ne sont pas dédiées à ça initialement. Bref, il y a aussi, peut-être dans les 30 prochaines années, ce modèle-là sera obsolète et on aura à la place des... Parce que ça repose sur l'architecture de von Neumann, qui est séquentielle, intrinsèquement. Et en fait, on va peut-être revenir à une autre branche de l'informatique qui est morte depuis une cinquantaine d'années, qui est celle des machines massivement parallèles de nature. Donc on va avoir prochainement des machines qui pourront faire du calcul probabiliste massivement de facto. Elles seront quantiques ou pas quantiques, m'embêtez pas avec ce gros mot-là. Mais on risque d'avoir une remise en cause dans les 30 prochaines années des modes des architectures matérielles qui sont dans nos machines.
Et comme tu l'as dit très justement, il y a un moment, il va falloir qu'on s'arrête. Et ce moment est arrivé, je suis désolé, il y a encore plein de questions. Malheureusement, on est limité par le temps. Il faut que les inscrits puissent aller manger. Donc je vous remercie beaucoup, messieurs.
Merci.